Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors qu'un certain nombre d'entre vous sont revenus du repos estival, nous voici donc dans ces premiers dimanches de la rentrée. Nous aurons à parcourir cette année, en terminant l'année sainte, de la Divine Miséricorde qui était plus particulièrement et qui est encore fondée sur la bonté paternelle de Dieu. Or, la Sainte Écriture aujourd'hui nous parle de cette paternité vis-à-vis du Christ et également dans notre place d'enfant vis-à-vis de lui, dans l'humilité par la parabole de celui qui est invité à un repas de noces et qui attend que le maître de la maison le place pour ce repas. Dans cette nouvelle année, vous n'avez pas vu sans doute les caméras haute définition, les quatre qui ont été placées de manière tellement discrète qu'il faut avoir un œil de lynx pour les voir. Ces caméras seront pointées vers le cœur et ne pourront pas prendre vos visages, conformément à la loi, mais permettront que cette belle liturgie et les chants de la Scola qui sont si soignés puissent être entendus sur une chaîne internet chaque dimanche, en direct et également enregistré. Tout cela, nous essaierons de le faire dans la continuité de la prière pour notre salut et pour notre pays, pour l'Europe, pour le monde. Les messes du dimanche soir sont maintenant à 19h, avec les vêpres à 17h45 au lieu de 17h30. Vous me direz, vous êtes là le matin à la messe, vous n'allez pas revenir le soir. Mais nous essaierons aussi, comme en carême, d'ouvrir le centre Bergère pour vous permettre de venir à la messe de 11h, d'assister à une conférence de carême et ensuite de terminer votre dimanche par les vêpres. Cette prière des psaumes qui est la prière du sentiment et de l'intelligence du roi David, du roi Salomon et des prêtres du temple qui attendaient le Messie. Alors en ce début d'année, nous devons nous recueillir, nous rappeler pourquoi nous venons à la messe le dimanche. Nous avons à reprendre avec plus de ferveur notre prière du matin, une offrande du matin et une prière du soir. Et pour cela, méditons la paternité de Dieu. Cette paternité qui nous est offerte et qui est signe que nous sommes frères et sœurs d'un fils aîné, du premier-né d'entre les morts, le Christ son Fils. Oui, aujourd'hui, saint Paul nous dit bien qu'il y a une paternité. Dieu est notre Père. Et avec les événements de cet été et la confrontation de notre société occidentale et de la France à une religion qui n'est pas chrétienne, qui ne reconnaît pas Dieu comme Père, mais comme Créateur, uniquement Créateur, nous sommes face à un défi profond. Oui, aussi bien des enfants ici même que des personnes d'un âge vénérable, nous devons bien nous rendre compte que ce n'est pas par culture française ou européenne que nous croyons que Dieu est Père. Il y a des missionnaires et les apôtres, il y a 2000 ans, se sont répandus à travers le monde. pour nous dire que Dieu était notre Père et qu'il avait envoyé son Fils. Ce n'est pas une question d'être français ou pas, c'est une question d'être croyant dans celui qui a créé le ciel et la terre, non pas avec le temps et le hasard, mais volontairement, avec beaucoup de fantaisie et d'amour. Dieu est un artiste, mais Dieu peut être aussi très sérieux. Oui, nous avons à bien comprendre cela. Aujourd'hui, Mère Teresa est canonisée. Et on peut discuter, certains discutent, de savoir si elle est tombée dans le piège du relativisme et si elle a pu maladroitement ne pas vouloir pousser les âmes qu'elle rencontrait à être baptisées. Eh bien, à bien y réfléchir et en prenant du recul, nous devons bien voir sa vie. Sa vie est d'avoir donné son âme à Dieu dès son plus jeune âge dans la vie religieuse. Sa vie est d'avoir maintenu un habit religieux, un habit de blanc et bleu en l'honneur de la Vierge Marie, avec la coupe indienne, mais dans la modestie de cet habit de pudeur des religieuses, qui n'est pas une question de longueur de cet habit, mais d'honneur et de gloire pour les femmes et aussi les hommes qui reconnaissent que leur corps participe à la volonté de Dieu d'être un instrument de l'âme. Cette femme, à la tête couverte par cet habit religieux, n'est pas dans la soumission et dans la peur, mais dans l'honneur rendu à la toute-puissance de Dieu, mais un Dieu qui est Père. Elle a porté toute sa vie la croix du Christ sur son épaule. À tous ceux qu'elle a approchés, de l'enfant malade jusqu'au vieillard mourant, elle a présenté ce crucifix. Alors, peut-être aurait-elle dû être dame catéchiste, et parler plus explicitement parfois à l'un ou l'autre du Christ. Mais en se penchant sur ses malades, elle avait toujours sur son épaule ce crucifix. Voilà la raison pour laquelle, avec force, elle pouvait dire au monde entier, lorsqu'elle aurait reçu les récompenses philanthropiques du monde pour le soin des malades, elle a dit au monde que cette création est liée à Dieu, à un Dieu qui est Père et qui nous fait de nous des enfants qui ont besoin de compassion, des enfants qui ont besoin de grandir. Et nous avons besoin aussi de courage pour accueillir ces enfants. Elle qui a passé toute une partie de sa vie en Inde, elle aurait pu devenir malthusienne de ce pasteur Malthus qui considérait que la vie sur terre serait heureuse si l'on était moins nombreux. Cette terre immense, ces contrées immenses où l'on peut construire encore 1000 villages, des dizaines, des centaines de milliers de villages pour que nous puissions y habiter plutôt que de nous agglutiner dans des villes monstrueuses. Oui, elle se battait contre la mort, contre la contraception, contre l'avortement. Et cela nous semble de la folie, et surtout à nos hommes politiques français et du monde qui veulent maintenir les naissances, et nous-mêmes nous avons peur. Nous avons peur de peuples qui auraient trop d'enfants. Mais au lieu d'avoir peur, nous devrions surtout prier pour qu'ils deviennent chrétiens, pour qu'ils puissent suivre les 10 commandements, pour qu'ils puissent ne pas être des menaces pour nous en ne respectant pas justement les 10 commandements. en étant dans la répudiation, dans la violence, dans la dureté, dans un puritanisme qui n'est pas un honneur rendu à Dieu, mais qui permet de répudier sa femme au lieu d'avoir une femme fidèle qu'il ne peut pas renvoyer dans un mariage indissoluble. Oui, la gloire de la foi chrétienne, de ce Dieu qui est notre Père, c'est de nous avoir donné un véritable amour, un amour qui se concrétise entre un homme et une femme, un amour indissoluble, un amour fidèle pour accueillir des enfants, pour les élever et pour ne pas se séparer. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont subi cette souffrance de la séparation. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont été même en partie coupables de cette séparation. Peut-être que parmi vous, il en est qui ont subi cette séparation et qui ont été abandonnés. Et pourtant, vous êtes ici. Vous êtes dans cette église de Dieu Père qui nous a envoyé son Fils. Il vous donne son pardon. Il vous accompagne dans vos blessures. Mais il vous demande de dire au monde, de prêcher à temps et à contre-temps, le pardon dans votre couple, l'attente et la patience, la vertu héroïque. Il demande à tous de ne pas divorcer. Il demande à tous d'avoir confiance. Il demande à tous de recevoir leurs enfants, qu'ils soient en bonne santé ou qu'ils soient malades. Il demande à tous de veiller sur leurs parents. Il demande à tous de ne pas tuer les malades. Il demande à tous de nous aimer les uns les autres dans cette exigence de la croix. Oui, si nous commençons une nouvelle année à Saint-Eugène, nous allons prier chez nous, dans notre prière du matin, dans notre prière du soir, dans notre chapelet. C'est que nous avons à avoir la véritable foi et elle sera difficile. Dans cette année où vous entendrez n'importe quoi à travers tous les médias, dans une année où l'orgueil humain éclatera dans les ambitions pour devenir président et diriger la France, tous ceux qui se mettront en première place dans les festins et qui oublieront la foi en Dieu, dans une laïcité qui chasse Dieu du cœur des enfants, du cœur des écoles, du cœur des hôpitaux. Voilà, vous avez entendu sans doute 100 fois ce genre de sermon. Mais cette foi qui est la nôtre doit être résistante, profonde, parce que finalement, elle est la plus douce au lieu d'être la plus violente. Elle est persévérante, elle est dans une espérance, car lorsque nous allons nous confesser, est-ce que nous avons confiance en un Dieu qui à la fois est exigeant et a donné sa vie pour nous, et en même temps est doux et humble de cœur. L'indulgence de cette année de la miséricorde, c'est la certitude que Dieu nous pardonne, et à nous aussi de pardonner à ceux qui nous ont blessés. À nous de prier pour que cette foi chrétienne se répande dans le cœur des hommes. Que Notre-Dame de Fatima provoque par 1000 moyens et peut-être même un grand miracle. Soyons mystiques, soyons fous, soyons mystico-dingos, n'est-ce pas? Il faut avoir un peu de cette folie chrétienne, d'attendre que le bon Dieu fasse aussi des miracles et de ne pas seulement vivre notre foi résignée dans cette France pleine de confusion. Oui, nous avons à être des catholiques pleins d'espérance, fiers d'avoir un Dieu qui s'est fait homme, fiers de la Vierge Marie, fiers d'une Mère Teresa qui a passé sa vie à faire rayonner sa foi, pourtant dans une certaine obscurité de consolation, mais une foi pleine de fruits. Voilà ce que nous pouvons souhaiter en ce début d'année, que la grâce de Dieu nous accompagne, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il.